Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble, 90.8.
Anne Caron. Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 16h30, bienvenue dans cette nouvelle émission de Microcité, votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h sur Radio Campus Grenoble. Vous enfilez un pull plutôt que d'allumer le chauffage, vous limitez vos trajets en voiture et vous êtes inquiet quand la facture d'électricité arrive. En bref, vous vous demandez comment faire face à l'augmentation du prix de l'énergie. Y a-t-il des astuces pour économiser et mieux consommer ? C'est ce qu'on verra dans le dossier de la semaine avec Clémentine Proutot et son invité. Ils sont allés au Stade des Alpes pour donner leur sang. Une collecte était organisée mercredi avec des sportifs de haut niveau. L'occasion pour l'établissement français du sang de faire une piqûre de rappel sur l'importance du renouvellement de ses stocks. Reportage en fin de journal avec Agathe Legrand. Vous avez le programme, on est ensemble jusqu'à 17h sur Radio Campus Grenoble 90.8, Microcité, c'est parti. Et tout de suite, on commence avec le journal de Léa Bouvet. Bonjour Léa.
Bonjour Anouk, bonjour à tous. Se dirige-t-on vers une reprise de l'épidémie ? Les contaminations au Covid-19 repartent à la hausse, de même que les hospitalisations. Certains craignent déjà une cinquième vague. Le porte-parole du gouvernement évoque une reprise légère mais sensible. Une autre reprise, celle de la croissance économique en France, 3% au troisième trimestre, un niveau qui dépasse toutes les prévisions et qui permet au pays de frôler le niveau de richesse d'avant-crise. On n'y dira bientôt plus Facebook, mais Meta, la maison mère du réseau social aux 2,8 milliards d'utilisateurs, fait peau neuve. Explication dans un instant avec Gwendoline Langlois. Mais d'abord, on vous emmène prendre un petit bol d'air à près de 3200 mètres d'altitude aux Deux Alpes. Comme chaque année, la station est l'une des premières d'Isère à pouvoir ouvrir ses pistes aux skieurs grâce à son glacier. Après 2 ans de fermeture à cause de la crise sanitaire, Romain Charel, responsable des pistes, se réjouit du retour du public.
Je suis juste au pied du glacier avec une très bonne neige et un temps très beau aujourd'hui. Les gens sont au rendez-vous et il y a un vrai engouement pour le ski. Ça fait toujours du bien de retrouver nos clients et puis de préparer enfin une saison qui s'annonce normalement normale. On vous attend aux Deux Alpes, il fait grand beau, la neige est super bonne, donc c'est avec plaisir qu'on peut vous retrouver sur le glacier jusqu'au 10 novembre.
Des chiffres qui cristallisent à nouveau les inquiétudes. Santé publique France a confirmé ce matin l'augmentation des contaminations au Covid-19 et des admissions à l'hôpital. Le taux d'incidence est en augmentation de 14% cette semaine. La France vient de franchir à nouveau la barre symbolique des 5000 cas quotidiens. Le seuil d'alerte est dépassé dans une quarantaine de départements métropolitains. L'agence sanitaire appelle à la vigilance. Des entreprises qui changent de nom, il y en a tous les jours, mais quand on s'appelle Facebook, c'est plus rare. Pourtant, son PDG, Mark Zuckerberg, l'a dévoilé hier soir. Désormais, le groupe s'appellera Meta. Alors, Gwendoline Langlois, ça change quoi ?
Pas grand-chose en fait. Le nom du groupe devient Meta, mais sur votre page, rien ne change. Ni le nom Facebook, ni le logo, ni les fonctionnalités. Idem pour tous les autres réseaux du groupe, Instagram et WhatsApp. Derrière ce changement, il faut sans doute voir une volonté de faire oublier les polémiques qui ont agité le groupe ces derniers temps, comme les problèmes de modération, les pannes géantes et les fuites de données personnelles, sans oublier les Facebook Files, ces révélations d'une ancienne employée, Frances Haugen, il y a quelques jours, sur l'inaction du groupe face à la haine en ligne et à la désinformation.
Vous faites peut-être partie des 25% de Français qui déclarent fumer quotidiennement. Le mois sans tabac débute lundi, une initiative de Santé publique France pour inviter à réduire ou stopper sa consommation de cigarettes. En France, le tabac est la cause de 45 000 décès par an. Mais s'il est si difficile d'arrêter, c'est qu'au-delà de la dépendance physique à la nicotine, eh bien il y a les habitudes sociales, le geste et les rituels qui se rattachent à la cigarette. Une dimension importante à prendre en compte lorsque l'on souhaite arrêter. Sarah Eustache est médecin addictologue au centre de soins Le Point Virgule à Grenoble.
Être fumeur, c'est aussi une appartenance, c'est aussi une identité, ça peut être un mimétisme aussi quand on est jeune. Du coup, il faut aussi travailler sur les craintes et puis ce qu'on va perdre en arrêtant de fumer, parce que c'est la réalité, on perd aussi quelque chose. Et ce côté social, pour certaines personnes, c'est très important. Des fois, ça donne une espèce de contenance, ça peut aussi permettre de passer au-dessus de certaines appréhensions sociales. Et on parle de comment remplacer ces rituels, quelle est la cigarette qui va être le plus difficile à arrêter, quelles sont les plus faciles à arrêter, peut-être on va commencer par celle-là. Donc c'est une approche très très pragmatique qui peut se faire avec un arrêt brutal ou un arrêt très progressif en fonction de ce qui paraît le plus pertinent.
La solution réside donc parfois dans un objet de substitution comme la cigarette électronique. Elle permet en plus au consommateur de contrôler le dosage de nicotine et de le réduire progressivement s'il le souhaite. Les cloches de Notre-Dame de l'Assomption ont résonné dans les rues de Nice ce matin, un an après l'attaque au couteau qui avait eu lieu dans la basilique. La ville rend hommage aux trois victimes. Une plaque commémorative doit être dévoilée en fin d'après-midi et une messe d'hommage sera célébrée à 19h. Un groupe de trois militants en grève de la faim depuis maintenant 19 jours en soutien aux migrants de Calais. Ils s'opposent au démantèlement des camps et dénoncent une escalade des violences. Une grève qui a débuté le 11 octobre au lendemain de la mort de Yasser, un jeune exilé écrasé par un camion. Le ministre de l'Intérieur a envoyé sur place le directeur général de l'Office français de l'immigration, Didier Léchy, pour une mission de médiation. Ce dernier propose de mieux préparer les démantèlements en effectuant un diagnostic social et en formulant des propositions d'hébergement. On parle beaucoup de la hausse du coût de l'énergie, qui sera d'ailleurs le thème de notre dossier, mais il n'y a pas que ça qui augmente. Le pain aussi devrait subir une hausse de prix. Entre le gel, les variations du marché et le manque de stock, les céréaliers ont vendu leur blé 30% plus cher cette année. Conséquence, le prix de la farine augmente. Reportage de Gwendoline Langlois à Grenoble.
La petite boulangerie artisanale de Marion a ouvert ses portes il y a 3 ans. Ici, la baguette a toujours été à 95 centimes, mais pour la première fois, son prix va passer à plus d'1 euro à cause de la hausse du coût de la farine et, de manière générale, des matières premières.
On est obligé de répercuter effectivement le prix de la farine sur le prix du pain et des fabrications. Alors ça va être entre 6 et 10 centimes, ça va plus tarder, mais c'est vrai qu'on est obligé de le faire.
Autre sujet qui inquiète Marion, l'augmentation du prix de l'électricité.
Les fours, ça demande une consommation importante, mais bon, on va pas répercuter le prix de l'électricité non plus sur les produits, hein, sinon on s'en sort pas. Vous avez plus de clients après. Hein.
Devant la boulangerie, ça râle un peu, mais globalement, les clients sont prêts à payer un peu plus cher leurs baguettes.
Je me rappelle quand j'étais enfant de combien ça coûtait et je trouve que déjà c'est des prix assez astronomiques. Si je devais en acheter tous les jours, non, j'achèterais plus de pain.
Je préfère payer un peu plus pour un bon produit qu'avoir un truc à 80 centimes et c'est pas bon.
Côté boulanger, on reste tout de même soucieux. Comme chaque artisan décide seul de ses prix, Marion a peur que ses clients aillent se fournir dans les grandes chaînes de boulangerie qui achètent en plus grande quantité et donc moins cher leur farine.
À noter que l'inflation des matières premières impactera aussi le reste de vos courses, les pâtes ou encore la bière devraient augmenter de quelques centimes chacun dans les mois qui viennent. Et pendant ce temps-là, la croissance nationale, elle, repart à la hausse. Elle atteint 3% au dernier trimestre, du jamais vu depuis plus de 50 ans. Une reprise qui dépasse toutes les estimations et les analyses de l'INSEE, par exemple. Avec la réouverture des secteurs de loisirs et de tourisme, la consommation des ménages a gagné 5% en un trimestre. Le ministre de l'Économie s'est félicité d'un résultat exceptionnel. Une croissance qu'il faudra rendre compatible avec les enjeux environnementaux. La COP26 s'ouvre dimanche à Glasgow en Écosse. La dernière grande opportunité de reprendre le contrôle, selon les organisateurs. Les pays membres de l'ONU auront jusqu'au 12 novembre pour s'accorder sur les thématiques liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un autre rendez-vous politique, lui aussi très attendu, le rendez-vous annuel du G20 commence demain. Les dirigeants des 20 puissances les plus industrialisées de la planète se retrouvent à Rome. Ils devraient échanger sur les problèmes économiques et sanitaires liés à la crise du Covid. Joe Biden a atterri cette nuit en Italie pour s'entretenir notamment avec Emmanuel Macron, un rendez-vous très attendu après la crise diplomatique des sous-marins. Les Jeux Olympiques de Paris en 2024, Kylian Mbappé en rêve. Les Jeux, c'est la référence du sport, c'est comme si j'étais destiné à y participer, explique-t-il aujourd'hui dans une interview pour le journal L'Équipe. Pour l'heure, l'attaquant du PSG, toujours souffrant, ne jouera pas le match de ce soir face à Lille. Coup d'envoi de cette 12e journée de Ligue 1 à 21h.
Et on vous retrouve Léa Bouvet en fin d'émission pour le rappel des titres. Microcité, ça continue sur Radio Campus, il est 16h39. Et dans un instant, on parlera de la hausse du prix de l'énergie.
Ma première réaction, ça a été de me dire, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour payer encore 140 euros de charge en tant qu'étudiant?
Comment faire? C'est justement la question que l'on va se poser avec Clémentine Proutot et son invité, directeur d'une entreprise qui aide à réduire sa consommation d'énergie. You wanna know how I get away with everything? I work all the fucking time. Monday to Friday, Friday to Sunday. I love it.
jobs. I need real builders. Work. Work it. Work. Work to be a winner. Sweat. Work it. Sweat. Sweat to be a winner. I wanna smell you. Yeah, I wanna smell you. I wanna smell you even from far away. Smell you, I wanna feel you, so I can know if you're a winner, baby. Work, work it, work, work to be a winner. Winners, work it good. Sweat, sweat to be a winner. How does that feel? Tell me how does that feel? Is sweat dripping down your balls? Well, then you're not a winner yet. But come on. Work. Work it. Work. Work to be a winner. Sweat. Work it. Work. Work to be a winner. So now that we've got an understanding, I need to explain one last thing to you. When I say work, I mean you've got to work for yourself. Love yourself. Feed yourself. So you can be a winner. All together. Work.
C'était Work It de Marie Davidson, remixé par Soulwax. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble, il est 16h43.
Le dossier de la semaine.
C'est un courrier qui ne fait pas vraiment plaisir, surtout à l'approche de l'hiver. Les factures d'électricité ou de gaz, elles ne cessent d'augmenter ces derniers mois. 44% pour le gaz depuis l'an dernier, 12% au 1er janvier prochain pour l'électricité. Ajouté à un prix des carburants record en ce moment, ça pèse lourd dans le budget. Aujourd'hui, Clémentine Proutot reçoit Jean-Jérôme Calvier, directeur général d'Ulysse, une entreprise qui lutte contre la précarité énergétique. Bonjour Clémentine.
Bonjour. Bonjour Jean-Jérôme Calvier.
Bonjour.
Comme l'a rappelé Anouk, vous proposez un service, le service Soleni, avec lequel vous aidez des familles précaires à faire des économies d'énergie. Par exemple, l'année dernière, vous avez aidé à peu près 250 familles. Et avant de parler des solutions que vous leur proposez, on va d'abord aller chez David, qui est étudiant à Grenoble et il a vu sa facture d'électricité tripler avec les nouveaux tarifs. Agathe Legrand l'a rencontré.
David a 23 ans, il habite un petit appartement proche du parc Paul Mistral. Jusque-là, il payait 40€ par mois pour se chauffer. Quand il a reçu sa nouvelle estimation d'électricité le mois dernier, ça a été la douche froide.
Alors voilà. Le montant des 10 prochaines mensualités prélevées 10 du mois est de 140€. Le premier prélèvement sera effectué le 10 septembre 2021.
Ma première réaction, ça a été de me dire, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour payer encore 140 euros de charges en tant qu'étudiant?
Donc, heureusement que j'ai la bourse, que j'ai les subventions de la CAF qui me permettent un peu de survivre, l'aide de mes parents aussi, surtout depuis l'augmentation de mes charges-là. Sinon, ce serait tout bonnement impossible.
En tout, David paie maintenant 600 euros par mois pour se loger et se chauffer. Et comme il est rattaché fiscalement à ses parents, il ne touchera pas l'indemnité inflation du gouvernement. Alors, il cherche à faire des économies.
Je tourne beaucoup moins de machines qu'avant, par exemple. Je garde toujours une petite lumière allumée, c'est tout. J'allume pas la grosse. Je fais attention à ce que j'éteigne constamment la lumière partout. J'essaie de brancher le moins de choses possible aussi, même si voilà, il y a des choses que je peux pas débrancher, comme ma box pour Internet ou mon frigo, par exemple. Mais je fais attention à ma consommation d'énergie, quoi.
Comme David, plus d'un Français sur deux interrogé par le baromètre du médiateur de l'énergie déclare avoir baissé le chauffage dans leur logement.
Donc on va reprendre les bases. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que c'est la précarité énergétique ?
Alors la précarité énergétique, c'est dans la loi de juillet 2010 qui estime que tout ménage en France qui est en incapacité effectivement de subvenir à ses besoins fondamentaux dans son logement, que ce soit par rapport à son confort et par rapport à effectivement sa capacité à payer des factures, peut être considéré comme étant en précarité énergétique. Les Anglo-Saxons, ils avaient défini en fait des critères un petit peu différents liés à des revenus, en disant que si on dépense plus de 10% de ses revenus pour ses factures liées à l'énergie dans son logement, on peut être considéré, c'est le fameux taux d'effort énergétique, comme étant en précarité énergétique.
Et des personnes comme David, là, qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est le type de profil que vous rencontrez ?
Oui, complètement. Nous, aujourd'hui, effectivement, alors il y a un phénomène du coup, que vous abordez effectivement ici, c'est la précarité énergétique étudiante, qui a été, je pense, révélée tout récemment par un certain nombre d'acteurs institutionnels. On a une chaire qui s'est mise en place il y a quelques années, qui s'appelle la chaire HOPE, qui travaille notamment avec le monde étudiant pour effectivement faire connaître le phénomène de précarité énergétique. Mais bien au-delà de ça, il y a une dizaine d'années, il y a un réseau national qui s'est mis en œuvre, qui s'appelle le réseau Rappel, le réseau des acteurs de lutte contre la pauvreté et la précarité énergétique dans le logement, qui aujourd'hui a un observatoire, met en place un certain nombre de pratiques pour accompagner en fait des personnes comme David qui sont dans une situation précaire et vulnérable par rapport à leur consommation d'énergie et d'eau, alors que effectivement, alors tout ce qu'il a dit effectivement c'est du bon sens. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Nous, on va un petit peu plus loin en essayant d'expliquer, en décomposant en fait la facture d'électricité, la facture d'eau. Il ne faut pas oublier l'eau dans les consommations d'énergie ou de fluide dans le logement, ainsi que les consommations, par exemple, de gaz, si on a une chaudière au gaz. Et nous, en échangeant, en fait, en discutant avec les familles pendant à peu près une heure et demie, donc le service Solenis, c'est des visites à domicile, on va pouvoir expliquer que la façon d'habiter aujourd'hui va générer tant de consommation par poste. Là, il parlait de l'éclairage. Donc effectivement, l'éclairage sur l'électricité qu'on appelle spécifique, c'est-à-dire uniquement ce qui peut fonctionner à l'électricité aujourd'hui. Le chauffage, on peut fonctionner différemment. En tout cas, l'éclairage, la machine à laver, le frigo, le lave-vaisselle, même si dans le milieu étudiant, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont équipés de lave-vaisselle, le lave-linge, tous ces équipements-là font partie de postes de dépenses. Et bien sûr, les box, les PC connectés, etc. De plus en plus, effectivement, on voit des consommations qui augmentent liées à ce qu'on appelait il y a 10 ans le multimédia. Maintenant, ça s'appelle le numérique. Donc tout ça, c'est un fait qui fait que derrière, même si le chauffage, ça reste à 60-70% le plus important en France métropolitaine dans notre facture mensuelle, indépendamment du mode de chauffage. Tout ce qui est lié aux usages du numérique, évidemment à l'éclairage, au froid, au lavage, etc., au séchage, ça pèse de plus en plus effectivement dans les factures.
Et donc là, par exemple, à David, vous lui conseilleriez quoi comme solution?
David, là, donc, il fait clairement attention, alors c'est très très juste par rapport à sa consommation liée à l'éclairage. Il parle de son frigo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le frigo doit être à une certaine température, pas forcément trop froid. Il ne doit pas y avoir de givre, puisque tout ça, ça fait des couches isolantes qui fait que le système frigorifique va continuer à fonctionner en permanence. Le congélateur, par exemple, qui peut exister dans certains logements. C'est un poste important puisqu'on maintient une température à moins 18 degrés pendant 24 heures sur 24 pendant toute l'année. Voilà, ça c'est des postes vraiment importants. Donc il faut effectivement avoir une température de consigne qui soit correcte. Donc en gros 3-4 degrés pour le frigo, pas moins. Et moins 18 degrés pour un congélateur, pas moins que ça. Faire attention à l'épaisseur de givre qu'il y a dans les éléments. Pas mettre forcément d'éléments chauds dans le frigo ou dans le congélateur. Donc ça, c'est la partie froid. Après, sur la partie éclairage, le meilleur, effectivement, c'est le solaire qu'on appelle passif, hein, en fonction du logement dans lequel on est. Mais surtout, effectivement, penser à... Alors, soit installer des ampoules basse consommation, hein, ce qu'on fait dans le service Solénie, hein, des ampoules qui étaient à l'époque fluo compact, maintenant c'est des LED qui sont installées, qui réduisent notamment beaucoup la puissance installée et du coup la consommation. Il y a des éléments assez simples, c'est de supprimer les veilles lorsqu'on va effectivement se coucher. C'est-à-dire la box, elle n'a pas nécessairement besoin d'être en fonctionnement toute la nuit. Identique pour tout ce qui est numérique, hein, en fait, tout ce qui est PC portable, écran, etc. Tout ça, effectivement, il faut être capable de couper les veilles. Et puis malgré tout, le principal poste de dépense, ça va être le chauffage. C'est-à-dire que dans le service d'accompagnement qu'on propose, sur une facture électrique, on va être capable de décomposer le poste lié à l'éclairage, le froid, le chaud, etc. Et aussi le chauffage. Donc là, tout dépend du mode d'équipement. Si c'est les fameux grille-pain, vous voyez, les vieux radiateurs, les vieux convecteurs électriques qui ne sont absolument pas conçus pour être performants et efficaces, en tout cas qui vont chauffer et qui en plus vont avoir tendance à souiller un petit peu l'air ambiant par convection. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez catastrophique, mais qui est encore beaucoup beaucoup utilisé dans les logements. Donc là, c'est vraiment d'utiliser le thermostat quand il existe. Et de le réguler et surtout de l'anticiper quand on s'absente ou pendant la nuit, de baisser la consigne de chauffage.
Et toutes ces petites choses qui paraissent super simples, ça marche ?
Alors ça fonctionne, bien entendu. Nous, on mesure l'impact de notre service par des mesures sur facture qui sont faites un an après la seconde visite. Hein. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de la première visite où il y avait des échanges avec les ménages sur leurs habitudes de consommation pour effectivement coupler à des mesures. Hein. Si on parle par exemple de l'eau, on va pouvoir mesurer les débits des robinets, le débit de la douchette, le volume mort qu'il y a dans la chasse d'eau. Tout ça, c'est des petites choses, mais tout ça derrière, lors d'une seconde visite, on va pouvoir les réduire. Une chasse d'eau, par exemple, c'est à chaque fois 9 ou 10 litres d'eau qui partent. Si on n'a pas le double bouton, il y a possibilité de mettre des volumes morts en fait, à l'intérieur de la chasse d'eau qui vont diminuer par 30 ou 40% les consommations d'eau. Sur les volumes, par exemple, les durées des douches, ça paraît assez évident, mais si vous avez une douche si vous avez un débit de votre douchette qui est autour de 15 ou 20 litres minutes, ce qui peut arriver, et si vous faites une douche qui dure 20 ou 30 minutes, c'est toujours 600 litres d'eau, donc ça va être au moins 300 litres d'eau chaude. Donc il y a un cumulus derrière électrique qui va fonctionner.
Et du coup, savoir en termes de chiffres, de proportions à peu près, les personnes avec qui vous travaillez, elles ont à peu près combien d'économies en pourcentage ?
Donc en pourcentage, ce qu'on arrive à mesurer, c'est un gain de 30% sur la consommation d'eau. Et quand on dit consommation d'eau, en fait, il y a aussi consommation d'eau chaude sanitaire qui fait que si on a besoin moins d'eau chaude, ben, il y a besoin de moins d'énergie pour chauffer l'eau. Voilà, ça paraît bête, mais c'est comme ça. Et on arrive à faire baisser de 15% les consommations d'électricité spécifique ou d'autres types de chauffage, par exemple le gaz.
Et là, maintenant, donc là, on parle de tout ce qui est économie pour le chauffage, l'électricité, le gaz, mais il y a aussi du coup l'essence, le carburant qui a augmenté. Je ne sais pas si vous êtes venu en voiture, par exemple, mais le prix en moyenne à Grenoble du gazole, ça coûte à peu près 1,66 €. On peut compter à peu près 2 centimes de plus pour l'essence. Du coup, pour payer un peu moins cher à la pompe, il y a de plus en plus de Français donc, qui passent au bioéthanol. Gwendoline Langlois nous explique pourquoi.
Vous voyez la quatrième pompe que vous n'utilisez jamais à la station essence, celle avec l'étiquette E85, deux fois moins chère que les autres, à 70 centimes d'euros le litre. Eh bien, c'est un mélange d'une petite quantité d'essence avec du bioéthanol, un alcool naturel dont Johan, garagiste à Grenoble, connaît par cœur la recette.
Alors le bioéthanol, c'est un substitut à l'essence. Donc, ça vient principalement de l'agriculture des cannes à sucre au Brésil. Et en France, c'est de la betterave.
Pour rouler à la betterave, deux solutions, acheter une voiture compatible E85, donc assez récente, ou alors convertir sa voiture actuelle au bioéthanol grâce à un petit boîtier placé sur le calculateur. Yohan, lui, en pose toutes les semaines.
Donc l'éthanol, dans tous les cas, si on installe un boîtier, c'est entre 690 et 1090 euros, donc c'est quand même pas donné. Le but, c'est quand même de faire des kilomètres pour le rentabiliser. Donc. On fait le calcul, hein, un boîtier, il est absorbé en 10-15 000 kilomètres à peu près.
Soit environ le parcours annuel moyen d'un Français. Mais au final, ça fait quoi de rouler à l'E85 ?
Pour le client, c'est totalement transparent parce que lui, il ne va pas voir du tout la différence, que ce soit la conduite, mis à part la consommation forcément qui est plus élevée, parce qu'il faut injecter à peu près 20% de plus, lui ne verra aucune différence. Le gros avantage de FlexFuel, c'est qu'on peut rouler 100% essence, 100% éthanol, les deux carburants mélangés dans n'importe quelle proportion. Par exemple, vous allez dans le sud ou en vacances, vous n'avez pas de pompe éthanol à proximité, vous pouvez mettre de l'essence et c'est le boîtier justement qui va ajuster lui-même l'injection qui est nécessaire.
Seul petit bémol, quand on roule à l'E85, on doit un peu plus souvent aller faire le plein. Et puis contrairement aux apparences, c'est pas très écologique, car la production de bioéthanol demande de grandes quantités d'eau, des pesticides et beaucoup de transport, donc d'énergie fossile.
Je voudrais savoir, Jean-Jérôme Calvi, est-ce que vous conseilleriez justement, par exemple, à vos clients de passer au bioéthanol ?
Ouais, vaste question sur la mobilité. Je pense qu'il y a une forme de sobriété, effectivement, dans les déplacements à avoir, hein, si on prend en compte les rapports à RTE qui sont parus en ce moment. Et puis, il faut regarder le mode de production aussi. Ce que je vous disais en off, c'est que moi, j'ai un petit véhicule électrique, mais je suis sur un fournisseur alternatif qui s'appelle Enercop, hein, qui injecte de l'électricité d'origine renouvelable dans le réseau. Donc voilà, et après, il y a une forme de cohérence. Et puis sinon, il y a le transport en commun. Enfin voilà, il y a le covoiturage qui est pour moi fondamental. Donc, bioéthanol, pas forcément.
Merci beaucoup pour être venu répondre à nos questions. Donc, je rappelle que vous êtes le président de l'entreprise Ulysse Énergie. On peut retrouver vos services sur internet au www.ulysse38.com et c'est possible de faire appel à vos services pour apprendre à mieux maîtriser ses dépenses d'énergie.
Merci à tous les deux. L'émission Microcité continue. Il est 16h56. Tout le monde trouve ça bien et pourtant, personne n'y va, ou presque. Le don du sang a pourtant besoin de donneurs. Mercredi, à Grenoble, une énième opération était organisée. Celle-ci était un peu particulière puisque c'était au Stade des Alpes avec des sportifs grenoblois. Agathe Legrand est allée sur place.
On respire un bon coup et puis ça passe.
À deux pas de la pelouse et des gradins du stade, pas de bruit de sifflet ni même de holà, mais des dizaines de courageux venus donner leur sang.
Donner son sang, c'est cool, donc je suis venue. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue.
Je le fais pas souvent, mais je sais que ça peut sauver des vies, donc je le fais quand même.
Dans la salle de gauche, le sang colore les poches et dans la salle de droite, en récompense, les donneurs peuvent poser à côté de la mascotte des hockeyeurs de Grenoble, les brûleurs de loups. L'attaquant, Julien Bellac, est lui aussi venu participer à l'opération.
Si on est juste heureux de les accueillir, prendre une photo avec les gens, leur signer un autographe et les remercier. Et voilà, le plus important, c'est ce qu'ils ont fait, la démarche de venir en tout cas pour voilà, donner leur sang.
Juste à côté, un joueur de football du GF38 et une Amazone, une joueuse de rugby, Sana La Grandeur. Elle a, elle aussi, donné de sa personne.
Le don du sang, c'est hyper important pour les personnes qui sont dans le besoin. Ça prend pas forcément de temps pour ceux qui donnent, mais ça peut sauver des vies.
Une façon aussi pour Sophie Titoulé, la directrice communication de l'établissement français du sang, de faire savoir qu'il manque du monde.
On veut des beaux gosses, on veut des hommes,
des belles femmes aussi,
mais voilà, on veut des jeunes.
Surtout après la crise sanitaire où 20 à 30% des dons ont été suspendus.
On a besoin de renouveler notre fichier. Il faut savoir qu'il y a à peu près 170 000 personnes qui sortent du fichier des donneurs de sang chaque année et que ce sont des gens qui sont plutôt généreux et fidèles. Et pour remplacer un donneur qui sort, il faut pratiquement 2,5 qui rentrent. Donc autant vous dire que pour avoir le même nombre de poches et de dons à la fin de l'année, on a vraiment des très gros enjeux sur la cible des nouveaux donneurs et des jeunes donneurs.
Des besoins importants et permanents, comme le rappelle la médecin Catherine Manzotier, responsable des prélèvements.
Une poche de globules rouges se garde 42 jours et une poche de plaquettes se garde 7 à 8 jours. Donc ça veut dire qu'il faut donner pour les malades qui en ont besoin tout le temps. Et il faut donner régulièrement de façon à ce que le stock de sang puisse se renouveler pour qu'on continue à pouvoir proposer des produits à transfuser aux malades.
128 donneurs sont venus participer à l'opération, dont 33 nouvelles têtes. En France, 3 millions de dons sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades, un chiffre qui peine à être atteint. Alors, pour donner son sang à Grenoble, rendez-vous à la Maison du Don, en centre-ville.
Et maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas donner votre sang. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec Léa Bouvet.
Journée d'hommage à Nice en mémoire des trois victimes de l'attaque au couteau de la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Simone, Vincent et Nadine avaient été tués par un terroriste islamiste de 21 ans. À l'occasion du G20 qui commencera demain à Rome, Emmanuel Macron s'entretiendra avec Joe Biden au sujet de la crise des sous-marins. Mais ce ne sera pas son seul rendez-vous. Un porte-parole britannique vient d'annoncer que le président français rencontrera aussi Boris Johnson au sujet des tensions entre Paris et Londres pour les licences de pêche post-Brexit. N'oubliez pas ce week-end de faire le changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche, le pays bascule à l'heure d'hiver. Passé 3h du matin, on recule d'une heure. Un peu de sommeil en plus, ça ne sera pas de refus. Et on vous souhaite d'avoir profité du soleil de la semaine, car le week-end s'annonce pluvieux. On attend notamment un épisode Cévenol sur le Gard et la Lozère, placé en vigilance orange, pluie et inondations.
L'émission Microcité touche à sa fin. Un immense merci à Nicolas Théillard qui nous a aidés tout au long de cette semaine. Merci aussi à Louis Oscovin et à Sarah Paulet, tous les deux à la technique. On en profite également pour souhaiter un bon anniversaire avec un jour d'avance à Clémentine Proutot. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Mais en attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ou réécouter nos émissions en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble.